Et si on se laissait transporter par une histoire courageuse? Dans l'épisode précédent, Vitalis n'a pas survécu à la fatigue ni au froid de la nuit glaciale passée sur un trottoir de Paris. Rémi, secouru par un jardinier, se réveille au chaud installé dans un lit. Touché par un accueil chaleureux, Rémi est particulièrement marqué par la plus jeune fille de la famille, Lise. Muette, elle sait pourtant s'exprimer à travers son regard toujours imprégné de tendresse. Le père, Aquin, propose à Rémi de rester vivre chez eux. En échange, le garçon travaillera avec le jardinier. Rémi accepte. Interrogé par le commissaire de police, Rémi doit retourner chez Garofoli avec un agent. Le padrone révèle alors des secrets sur Vitalis. Autrefois, le vieil homme incarnait l'artiste le plus célèbre d'Italie, jusqu'au jour où il perdit sa voix. Il fut alors forcé à se tourner vers un métier moins prestigieux, montreur de chiens savants, et il décida de changer de nom pour ne pas salir sa réputation. Capi, qui avait disparu, réapparaît auprès de Rémi. Tous les deux, adoptés par la famille Aquin, vont maintenant pouvoir vivre en famille. Pense à t'inscrire sur le site ilétaitunroman.com pour être tenu informé de la sortie des derniers épisodes. Allez, c'est parti ! Chapitre 20 : Jardinier. L'enterrement de mon maître était prévu pour le lendemain et le père m'avait promis de m'y conduire. Seulement, le lendemain, je ne pus me lever. Durant la nuit, je fus pris d'une grande fièvre. D'abord affaibli par des frissons, je ressentis ensuite une bouffée de chaleur. Comme si j'avais le feu dans la poitrine, j'eus l'impression d'être malade comme l'avait été Joli Cœur après sa nuit passée sur l'arbre dans la neige. En réalité, je souffrais d'une violente inflammation dans la poitrine causée par le refroidissement que j'avais éprouvé dans la nuit où mon pauvre maître avait péri. Enfermé dans cet état de fragilité, je pus apprécier la bonté de la famille Aquin et le dévouement inaltérable d'Étiennette. D'ordinaire, chez les pauvres gens, on hésite à appeler les médecins. Je fus frappé d'une façon si violente et si effrayante qu'on fit pour moi une exception à cette règle. Le médecin n'eut pas besoin d'un long examen pour voir quelle était ma maladie. Il déclara qu'on devait me porter immédiatement à l'hospice. C'était en effet la solution la plus simple et la plus facile. Cependant, le père s'opposa à cet avis. Il dit :
« Puisqu'il est venu tomber à notre porte, c'est que nous devons le garder. »
Étiennette, déjà submergée par toutes ses occupations, se vit revêtir le rôle de garde-malade. Jamais impatiente, jamais un oubli. Elle me soignait méthodiquement et avec douceur. Parfois, elle m'abandonnait pour se consacrer aux travaux de la maison. Alors sa petite sœur la remplaçait. Souvent, je découvrais Lise au pied de mon lit, fixant sur moi ses grands yeux inquiets. Ma fièvre troublait mon esprit et, perdue dans un délire, je croyais qu'elle était mon ange gardien et je lui parlais comme j'aurais parlé à un ange. Je lui confiais mes espérances et mes désirs. Ma maladie fut longue et douloureuse. Malgré plusieurs rechutes, Étiennette fit constamment preuve de patience et de dévouement à mon égard.
Pendant plusieurs nuits, il fallut veiller auprès de moi. Ma poitrine était si prise qu'on aurait pu croire que j'allais étouffer d'un moment à l'autre. Ce furent Alexis et Benjamin qui, chacun leur tour, se remplacèrent à mon chevet. Enfin, mon rétablissement arriva, mais comme la maladie fut longue, il me fallut attendre jusqu'au printemps pour sortir de la maison. Alors Lise, qui ne travaillait pas, prit la place d'Étiennette et ce fut elle qui me promena sur les bords de la rivière. Vers midi, quand le soleil battait son plein, nous partions. Nous tenant par la main, nous nous en allions doucement, suivis de Capi. De cette année-là, je garde le souvenir d'un doux printemps. Lors de nos promenades, naturellement, Lise ne parlait pas. Mais, chose étonnante, nous n'avions pas besoin de paroles. Nous nous regardions et nous nous comprenions si bien avec nos yeux que j'en venais à ne plus lui parler moi-même. À la longue, les forces me revinrent et je pus me mettre aux travaux du jardin. J'attendais ce moment avec impatience. J'avais hâte de faire pour les autres ce que les autres faisaient pour moi, de travailler pour eux et de leur rendre ce qu'ils m'avaient donné. Je n'avais jamais travaillé. Aussi pénibles que sont les longues marches, elles ne constituent pas un travail continu qui demande volonté et application. Malgré tout, il me semblait que je travaillerais bien, avec courage et de la même façon que ceux que j'observais autour de moi. Les giroflées sont de jolies petites plantes. Elles poussent en grappes et leurs fleurs diffusent un parfum divin. Le père Aquin en cultivait en cette saison et notre jardin en était rempli. Il y en avait des rouges, des blanches et des violettes. La tâche qu'on me confia fut proportionnelle à mes forces encore bien faibles. Pour protéger les fleurs de la gelée, des panneaux vitrés les recouvraient. Je devais les lever le matin quand la douceur revenait et les refermer le soir avant que la gelée ne revienne. Dans la journée, je jetais de la paille sur les plantes pour les préserver d'un coup de soleil. Ce n'était ni bien difficile, ni bien pénible, mais cela était assez long car j'avais plusieurs centaines de panneaux à manipuler et à surveiller deux fois par jour. Pendant ce temps, Lise s'occupait du remplissage des seaux servant à l'arrosage. L'un de ses frères les transportait et les renversait, tandis que l'autre aidait son père. Chacun tenait son poste et personne ne perdait son temps. J'avais vu les paysans travailler dans mon village. Mais je n'avais aucune idée de l'application, du courage et de l'intensité avec lesquelles travaillent les jardiniers des environs de Paris. J'avais vu aussi cultiver la terre, mais je n'avais aucune idée de ce qu'on peut lui faire produire par le travail en ne lui laissant pas de repos. Je fus à bonne école chez le père Aquin. Quand les forces me vinrent, j'eus le plaisir de pouvoir mettre quelque chose dans la terre et la satisfaction encore plus grande de le voir pousser. C'était mon travail à moi, ma chose, ma création, et cela me procurait un sentiment de fierté. J'étais donc utile à quelque chose et je le prouvais. Cette vie nouvelle m'imposa une lourde fatigue. Mais je m'habituai vite à cette existence laborieuse. Elle contrastait si nettement avec mon passé de vagabond. Autrefois,
je courais en toute liberté, ayant pour seule peine l'objectif d'aller droit devant moi sur les grandes routes. Maintenant, il me fallait rester enfermé entre les quatre murs d'un jardin et, du matin au soir, travailler dur, la chemise mouillée sur le dos, les arrosoirs au bout des bras et les pieds nus dans les chemins boueux. Mais autour de moi, chacun travaillait tout aussi dur. Les arrosoirs du père étaient plus lourds que les miens et sa chemise était plus mouillée de sueur que les nôtres. Et puis, je vivais une vie de famille, chose que j'avais auparavant cru perdue à jamais. Je n'étais plus seule, je n'étais plus l'enfant abandonné. J'avais mon lit à moi, j'avais ma propre place à la table qui nous réunissait tous. Si durant la journée, quelquefois, Alexis ou Benjamin me donnaient un coup et moi je le leur rendais, le soir arrivé, tous autour de la soupe, nous nous retrouvions amis et frères. Tout n'était pas que travail et fatigue. Nous avions aussi nos heures de repos et de plaisir. Certes, ces pauses étaient courtes, mais cela les rendait encore plus délicieuses. Le dimanche, dans l'après-midi, nous nous réunissions sous quelques branches de vigne près de la maison. Je décrochais ma harpe restée suspendue au clou durant toute la semaine et je faisais danser les deux frères et les deux sœurs. Après s'être bien défoulé, il me faisait chanter mon répertoire. Ma chanson napolitaine produisait toujours un effet irrésistible sur Lise. Jamais je n'ai réussi à chanter les dernières paroles sans voir ses yeux remplis de larmes. Alors, pour la distraire, avec Capi, nous nous mettions à jouer une pièce comique. Pour lui aussi, ses dimanches étaient des jours de fête. Il lui rappelait le passé et quand il avait fini son rôle, il l'aurait volontiers recommencé. Deux années s'écoulèrent ainsi. Le père m'emmenait souvent avec lui au marché ou bien chez les fleuristes et ainsi nous parcourions tous les quartiers de la ville. Petit à petit, j'appris à connaître Paris. Je compris que si ce n'était pas une ville de marbre et d'or, comme je l'avais imaginé, ce n'était pas non plus une ville de boue, comme mon entrée avec Vitalis me l'avait fait croire un peu trop vite. Je vis les monuments, j'entrais dans quelques-uns, je me promenais le long des quais, sur les boulevards, dans le jardin du Luxembourg, dans celui des Tuileries, aux Champs-Élysées. Je restais en admiration devant le mouvement des foules. Je me fis une sorte d'idée de ce qu'était l'existence d'une grande capitale. Heureusement, mon éducation ne se fit pas seulement par les yeux et selon les hasards de mes promenades à travers Paris. Le père Aquin avait travaillé au jardin des plantes auprès des gens de science. À leur contact, il avait développé son goût et sa curiosité pour la lecture. Pendant plusieurs années, il avait utilisé ses économies pour acheter des livres qu'il lisait durant ses heures de loisir. Mais après son mariage et la naissance de ses enfants, il n'en eut plus le temps. Il devait avant tout gagner le pain de chaque jour. Les livres avaient été abandonnés, mais conservés dans une armoire. Le premier hiver que je passais dans la famille Aquin fut très long. Les travaux de jardinage se trouvèrent ralentis pendant plusieurs mois. Alors, pour occuper les soirées au coin du feu, les vieux livres furent sortis de l'armoire et distribués à tous. C'étaient pour la plupart des ouvrages sur la botanique et l'histoire des plantes avec quelques récits de voyage. Régulièrement, Alexis et Benjamin, après avoir ouvert leur volume, s'endormaient sur la troisième ou la quatrième page. Quant à moi, je lisais jusqu'au moment où nous devions nous coucher. Les premières leçons de Vitalis n'avaient pas été perdues, et au moment de me coucher, tout en me disant cela, je pensais à lui tendrement. Mon désir d'apprendre rappela au père Aquin son goût pour la lecture durant sa jeunesse. Aux livres qui étaient dans l'armoire, il en ajouta quelques autres qu'il me rapporta de Paris. Il les choisissait au hasard des titres, mais enfin, c'était toujours des livres. Tout ce qu'il y avait de bon en eux me resta et m'est resté, tant il est vrai que toute lecture profite. Lise ne savait pas lire. Mais en me voyant plongée dans mes lectures dès que j'avais une heure de liberté, elle eut la curiosité de savoir ce qui m'intéressait autant. Au début, considérant que ce loisir m'empêchait de jouer avec elle, elle chercha à prendre mes livres. Puis voyant que malgré tout je revenais à eux, elle me demanda de les lui lire. Ce fut un nouveau lien entre nous. Repliée sur elle-même et dotée d'une vive intelligence, elle trouva dans la lecture une distraction et une nourriture. Combien d'heures nous avons passées ainsi, elle assise devant moi, ne me quittant pas des yeux, moi lisant. Souvent, je m'arrêtais en rencontrant des mots ou des passages que je ne comprenais pas et je la regardais. Alors, nous restions quelquefois longtemps à chercher. Quand nous ne trouvions pas, elle me faisait signe de continuer avec un geste qui voulait dire « plus tard ». Je lui appris aussi à dessiner. Cela fut long et difficile car mes talents étaient limités. Mais nous nous entendions bien et enfin je vins à bout de cet apprentissage. Quelle joie quand elle traça quelques traits où l'on pouvait reconnaître ce qu'elle avait voulu faire. Le père Aquin m'embrassa.
« J'aurais fait une grande bêtise de ne pas te prendre. Lise te le rendra plus tard. »
Plus tard signifiait quand elle parlerait, car on n'avait pas renoncé à lui rendre la parole. Seulement les médecins avaient dit que, pour le moment, il n'y avait rien à faire et qu'il fallait attendre une crise. Lise avait aussi voulu apprendre à jouer de la harpe. Très vite, ses doigts s'étaient habitués à imiter les miens. Mais évidemment, elle n'avait pas pu apprendre à chanter, et cela la contrariait. Bien des fois, j'ai vu des larmes dans ses yeux qui me disaient son chagrin. Mais il ne durait pas car sa bonne nature lui permettait toujours de reprendre le dessus. Adoptée par le père Aquin et traitée en frère par les enfants, je serais probablement restée à jamais avec eux si une catastrophe n'était pas encore une fois venue changer le cours de ma vie. Était-ce donc mon destin que celui de ne pas pouvoir rester heureux longtemps? Fallait-il toujours que des événements indépendants de ma volonté viennent me priver d'une existence douce et paisible? Rémi aura passé 2 années de travail et de bonheur auprès de la famille Aquin. Pourtant, cette période est sur le point de toucher à sa fin. La suite, au prochain épisode. Si toi aussi tu as envie de soutenir mon podcast, n'hésite pas à laisser une note ou un commentaire ou à t'abonner à la newsletter sur editetunroman.com. Merci pour ton écoute et à très vite !